Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été, on est ensemble jusqu'à 19h. Il est l'un des ministères les plus emblématiques de la Ve République, la rue de Valois, ministère de la Culture et de la Communication, est une institution un peu à part, une exception culturelle en soi. Son prestige et son histoire ne le protègent pourtant pas de la crainte chez certains de le voir disparaître ou privé de ses missions. En témoigne encore cette tribune parue dans le journal Le Monde hier. Les signataires, l'acteur Robin Renucci et 8 représentants d'associations culturelles s'alarment d'un affaiblissement et même d'une démolition du ministère, ce sont leurs mots. La critique est sévère et elle s'adresse directement aux plus hautes autorités de l'État. Alors sur quoi se fondent ces inquiétudes et pourquoi le retour de ce débat sur le rôle et les pouvoirs de la rue de Valois? Déjà en 2009, l'ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, constatait, je le cite, « en cultivant l'illusion qu'il peut et doit tout faire, il est le ministère qui génère le plus de frustration. » Alors qui veut la peau du ministère de la Culture? C'est la discussion, le débat que nous aurons ce soir jusqu'à 19h et ils sont 4 invités autour de la table avec nous. À commencer par vous, Joris Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes metteur en scène, fondateur de la compagnie Haut et Court à Lyon, directeur du Centre Dramatique National de Lyon. Vous êtes aussi vice-président de l'Association des Centres Dramatiques Nationaux et vous êtes l'un des co-signataires de la tribune donc parue dans Le Monde hier que je citais. À vos côtés pour discuter ce soir, Bernard Latarget, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargé par la ministre de la Culture Françoise Nyssen de la coordination du plan culture près de chez vous dont on parlera au cours de l'émission. Notre troisième invité est au téléphone. Il s'agit de Fabien Janel. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vous fondateur et directeur de la scène nationale de la ferme du Buisson. Vous êtes ancien directeur de l'Office national de diffusion artistique et puis l'auteur de Pour une politique du spectacle vivant, paru aux éditions Les Solitaires Intempestifs, c'était en 2016. Et dernier invité, il s'agit de Benoît Lambert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vous en duplex des studios de France Bleu à La Rochelle, que je remercie au passage. Vous êtes metteur en scène et directeur du Centre Dramatique National de Dijon. Vous êtes en duplex depuis La Rochelle, mais vous officiez à Dijon. Joris Mathieu, pourquoi avoir publié cette tribune maintenant? Est-ce qu'il y avait une urgence? Est-ce qu'il y avait un événement déclencheur particulier qui a justifié la publication de ce texte?
Alors peut-être déjà pour commencer, pour répondre à la question que pose votre émission, qui veut la peau du ministère de la Culture? Pas nous, évidemment, les signataires, les associations signataires de cette tribune, pas plus que nous ne souhaitons la peau de la ministre de la Culture, mais une succession d'événements depuis un an nous ont conduit à nous poser des questions très très fortes et très franches. Et parmi les, peut-être qu'il est important de dresser déjà le tableau un peu contextuel. On est là dans un ministère de la Culture qui n'a plus de direction générale de la création artistique, puisque ce poste n'a pas été pour l'instant pourvu, qui n'a plus de direction générale du patrimoine depuis maintenant plusieurs mois, dont la direction des services des musées ou des archives n'ont pas été non plus nommés, qui n'a plus personne non plus à la tête de la réunion des musées nationaux. On a un cabinet qui, comme tous les autres ministères autour de la ministre, a été réduit à 10 conseillers. Et à côté de ça, on a une succession de nomination de désignation plutôt de chargé de mission directement depuis le cabinet élyséen sur un certain nombre de sujets. Ça peut être le patrimoine, par exemple, ça peut être la francophonie, ça peut être plus récemment une mission confiée en dehors du giron du ministère à Thierry Thuot pour évaluer la question des résidences de création, mais c'était des budgets qui sont sous la coupe du ministère de la Culture. Donc tout ça nous laisse penser qu'il y a peut-être aujourd'hui en même temps un affaiblissement du ministère de la Culture dans l'accomplissement de ses missions, une délégitimation de son action par la nomination de chargés de mission qui viennent couvrir l'étendue de son domaine d'action.
Benoît Lambert, est-ce que vous partagez ces critiques détaillées dans la tribune et que vient de nous redire Joris Mathieu, qui parle donc d'une succession d'événements inquiétants depuis un an, et si j'ai bien compris, qui touche quand même beaucoup à des questions de nomination, hein. Benoît Lambert.
Oui, et puis bien sûr, il y a tout. Oui, enfin, d'abord, je souscris évidemment à ce qui a été écrit dans la tribune. En tant que directeur de centre dramatique, je suis, comme Joris et comme Robin Renucci, membre de l'Association des centres dramatiques nationaux. Donc, il y a les éléments de contexte qu'a rappelé Joris, mais il y a aussi un mouvement de fond quand même beaucoup plus important qu'on voit tous à l'œuvre, c'est-à-dire quand même une offensive de ce gouvernement contre les services publics, au-delà du service public de la culture, et une méfiance assez troublante d'ailleurs sur ces services publics, en véhiculant l'idée qu'ils ne rempliraient pas leur mission, au fond, et qu'il serait temps de faire autrement, quoi, de balayer tous ces vestiges du vieux monde et de passer à autre chose. Alors, le problème, c'est qu'autre chose, on ne sait pas ce que c'est. On a un peu l'impression que c'est de faire systématiquement confiance au marché, systématiquement confiance à l'entreprise privée. Le rapport tendu avec le ministère, pour nous, il a commencé, pas cet été, mais l'été dernier, dans une réunion à Avignon qui est devenue un peu fameuse, en tout cas dans la profession, puisqu'il y a eu des mots assez vifs échangés. Le reproche qui était fait à ce moment-là aux acteurs publics du spectacle vivant, c'était de ne pas être suffisamment attentif aux acteurs privés de ce même spectacle vivant. Ça a déjà été un premier point de tension, ce rapport du public et du privé. Et on voit bien aujourd'hui que le gouvernement, dans énormément de domaines, et la culture ne fait pas exception, part du principe que le privé est toujours plus performant, toujours plus efficient, et que finalement que le marché est toujours une instance de régulation préférable à toutes les régulations publiques qu'on peut essayer de mettre en œuvre. Donc c'est ça, oui. Ça aussi c'est un élément de contexte quand même très important pour nous en ce moment, oui.
Je passe la parole à la Défense, une offensive contre les services publics. Bernard Lartergé, est-ce que c'est quelque chose auquel vous observez, comment vous réagissez à cette critique-là, offensive contre les services publics de la part du ministère de la Culture, enfin de la part du gouvernement et de la politique menée par le ministère de la Culture?
Non, je ne constate aucune offensive délibérée de la part du gouvernement d'affaiblissement du service public de la culture, ni du point de vue des budgets, ni du point de vue des projets, ni du point de vue des engagements que la ministre de la Culture a pris récemment sur ses nouvelles orientations politiques et ses priorités. La question de qui veut la peau du ministère de la Culture, de l'affaiblissement, voire de la disparition du ministère de la Culture, elle est un peu récurrente dans son histoire. Vous citiez Ayagon tout à l'heure. Je me souviens d'un article qu'il avait publié dans Le Monde, je crois, il se posait la question de la légitimité du maintien de ce ministère et de l'opportunité, par exemple, de le fondre, comme ça a été le cas à une certaine époque avec l'éducation nationale.
La citation est effectivement tiré de cet article du Monde. Vous vouliez terminer ? Je termine le tour de table avec vous, Fabien Janel. Est-ce que vous avez, toujours sur cette même question, est-ce que vous avez, vous, été surpris par la publication de cette tribune ?
Oui, j'étais réellement surpris. Je l'ai relu à plusieurs fois et ma surprise ne s'est pas dissipée. Non pas qu'il y ait dans cette tribune des choses qui sont tout à fait certainement justes, mais d'un seul coup s'adresser au président de la République et au Premier ministre, laissant entendre qu'on prend la défense de la ministre de la Culture, parce que la ministre de la Culture est quand même ministre de ce gouvernement, elle a une responsabilité. Est-ce que c'est pour rendre service à la ministre, auquel cas c'est une erreur monumentale, parce que ça va mettre cette ministre, pour laquelle personnellement j'ai de l'estime, en difficulté? Vraiment, je ne comprends pas. En lisant ça, j'avais l'impression qu'on revenait au temps de Nicolas Sarkozy, quand le président avait mis en place le Conseil de la création artistique, qui là était une véritable machine de guerre contre le ministère de la Culture. Mais je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu cette dernière année en particulier d'attaque aussi déterminée, déterminante contre le ministère de la Culture de la part de l'Élysée ou de la part de Matignon. Qu'il y ait des sujets de discorde, qu'il y ait des oppositions entre la profession et le ministère, ça, c'est une chose, mais de là à lire que le président et le Premier ministre pilotent un projet de démantèlement de l'administration du ministère, qu'il siphonne ses moyens et le vide de son sens, on parle plus loin d'entreprise de démolition. Là, j'avoue que les bras m'en sont tombés.
Bon, on va laisser Joris Mathieu répondre sur cette question de la mise en difficulté de la ministre. Vous disiez tout à l'heure, Joris Mathieu, que vous n'aviez absolument pas l'intention de mettre en difficulté la ministre. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur que cette tribune soit contre-productive et mette la ministre en porte-à-faux ?
Disons que ce n'est pas notre sujet, c'est-à-dire que notre sujet n'est pas de soutenir ou d'attaquer Madame Françoise Nyssen, mais plutôt de voir depuis un an un ensemble d'acteurs culturels de ce pays se mettre au travail, être autour de la table, réfléchir, penser, dans une période où les acteurs culturels, les lieux labellisés notamment, mais les compagnies indépendantes également, sont en pleine mutation, repensent les usages dans leurs lieux, réinventent leur rapport avec les publics et les populations, on voit en fait, on a en face de nous finalement quelque chose qui est de l'ordre d'une de ce qu'on a pu dans un premier temps prendre comme un temps de conception d'une politique culturelle qui soit un véritable projet dans lequel il y a une véritable vision. Mais finalement, ce qu'on voit à l'œuvre, c'est exclusivement se profiler avec le Cap 22 et la réforme de nos institutions qui va commencer à être mis au travail dès la rentrée. Une réflexion sur la réforme des outils de la République, que ça soit l'administration des ministères, qu'elle soit centralisée ou déconcentrée, et également, je dirais, une absence de réinvestissement intellectuel de la place que l'art et la création ont à jouer dans le projet sociétal. Finalement, on nous situe dans un endroit qui n'est pas celui de la construction d'un projet, mais bien plutôt d'une refonte économique sur les territoires avec en perspective. Alors bien sûr, on est dans l'anticipation, on verra ce que le Cap 22 réserve, mais une réelle réflexion sur le rapprochement entre les collectivités territoriales et l'État, la place que l'État entend jouer encore sur ces territoires. Et cela, alors peut-être que ça ne ressemble pas encore à une attaque en règle, mais c'est quelque chose qui, mis à côté de ce que je nommais tout à l'heure, c'est-à-dire des services qui n'ont plus de direction, des missions qui sont portées directement au sein du cabinet élyséen, des choses qui ne nous font pas penser que le ministère de la Culture aujourd'hui est renforcé dans sa place et sa position au niveau de l'organisation de notre gouvernement.
Vous écrivez dans la tribune que le ministère a désormais un rôle secondaire, un rôle d'exécutant de la politique menée directement par l'Élysée. Bernard Lartarget, est-ce que vous avez l'impression, vous, qu'au ministère, vous menez des missions comme exécutant, comme simple exécutant ?
Le titre de l'article qu'on évoque, c'est « La politique présidentielle affaiblit délibérément ». Moi, je ne connais pas la politique présidentielle. Je connais la politique culturelle du gouvernement telle qu'elle est incarnée et portée par Françoise Nyssen. Et je la défends. Je la défends parce qu'elle est juste et courageuse, la politique et la ministre. J'ai vraiment le sentiment que cette ministre est plus réformatrice que beaucoup de ses prédécesseurs. Il se trouve qu'elle m'a demandé de l'assister dans l'une de ses réformes, dans l'un de ses projets réformateurs, qui est celui de la politique de la culture près de chez vous. C'est une véritable étape nouvelle dans l'histoire de l'aménagement culturel du territoire. Alors, on n'y arrivera peut-être pas, mais l'ambition est là. Le lancement a été fait, on se bat, on va continuer de se battre. Je n'ai pas le sentiment, après quelques semaines de travail sur ce nouveau chantier, dans toutes les régions de France, auprès de toutes les DRAC de France, que j'étais en présence d'un service public affaibli, menacé de disparition, asphyxié par l'insuffisance des moyens. J'avais le sentiment d'un service public mobilisé sur une nouvelle dimension de politique, très novatrice par rapport aux politiques précédentes. Le souci de compléter ces 50 glorieuses de l'armature culturelle du territoire, la création de tous ces établissements qui sont notre exception nation française et notre orgueil par une nouvelle phase qui prend en compte justement tous les laissés pour compte de cette armature, tous les laissés pour compte de ces 50 glorieuses, qui s'intéresse justement aux territoires qui aujourd'hui ne sont pas desservis par cette offre artistique et culturelle si riche et si diverse, cette nouvelle étape, cette nouvelle dimension, cette nouvelle volonté, encore une fois, ça n'est pas le signe d'un affaiblissement du ministère de la Culture, pour moi.
Le projet que vous évoquez, donc Plan Culture près de chez vous, si j'ai bien compris, a l'ambition d'apporter, de résoudre la question de l'inégalité des territoires face à la culture. Il y a ce terme de désert culturel, comme on parle de déserts médicaux dans un autre domaine. Benoît Lambert, je rappelle, vous êtes directeur du CDN de Dijon. De quel œil est-ce que vous voyez cette ambition de remédier à l'inégalité des territoires face à l'accès à la culture?
Bon, c'est difficile de la voir autrement que positivement là-dessus. D'ailleurs, on est en train un peu de s'engager dans le dialogue qu'il faudrait qu'on évite.
Oui, mais pourtant, le projet est fortement critiqué dans la tribune. C'est pour ça que je vous pose la question.
Non, je ne crois pas précisément que ce soit... Enfin, là, c'est toute la difficulté de réussir à énoncer des choses, si ce n'est complexe, en tout cas, un tout petit peu articulé. Joris l'a rappelé tout à l'heure, notre objectif n'est pas d'attaquer la ministre. Ce que vient de dire Bernard Latarget, on le sait, on a travaillé, nous, avec les services du ministère, nous, les acteurs de terrain, pour la définition des contenus de ce plan culture près de chez vous. Ensuite, on a été très... décontenancé, très embarrassé et très agacé par la façon dont le ministère a choisi de communiquer sur ce plan, dans lequel il mettait en avant d'abord les grands opérateurs nationaux, avant de partir des établissements du terrain et des équipes artistiques présentes sur tout le territoire national du fait de la politique de décentralisation. Donc c'est là-dessus qu'on avait déjà à l'époque porté le fer et qu'on avait relancé une discussion. Et on peut se réjouir de voir que... actuellement, les choses vont prendre sans doute un visage plus conforme à ce que doit être une politique ambitieuse de partage de l'art au niveau de la nation. Mais pour revenir un petit peu en arrière, on sait pertinemment, vous l'avez dit en commençant, que dans la Ve République, la légitimité du ministère de la Culture dépend de la volonté présidentielle. On peut le regretter, on peut trouver que c'est dommage, que ça ne devrait pas fonctionner comme ça, etc., etc. Donc on peut dire à l'infini que la ministre est de bonne volonté, on ne le nie pas, qu'elle a des convictions culturelles, c'est une évidence, qu'elle est proche de la création, on le sait. Nous, ce qu'on a aussi en face de nous, c'est un ministère qui tout de même à plusieurs reprises, et il faut le rappeler, de façon latérale, de façon discrète, a appelé la profession à son secours. En disant « Attention, nous avons en face de nous des gens qui ne nous veulent pas du bien ». Donc il faut aussi dire les choses clairement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les DRAC ont été menacées, peut-être qu'elles le sont encore. Moi je serais heureux d'entendre Bernard Latage et Fabien Janel sur cette question-là. On nous a annoncé récemment, comme si c'était une grande victoire, que les DRAC n'allaient sans doute pas être supprimés. C'était ça la grande victoire. La grande victoire n'était pas une conquête nouvelle, une évolution nouvelle pour une politique réinventée. Nous, ce qu'on a revendiqué notamment, c'est plus d'interministériel, plus de discussions entre les différents ministères, et que la question de l'art et de la culture puisse être centrale aussi à l'intérieur d'un certain nombre de politiques en dehors du champ strict du ministère de la Culture. Bon, mais aujourd'hui, ce qu'on nous annonce, c'est que la grande victoire, c'est que sans doute les DRAC ne vont pas disparaître. Mais la question, c'est pas ça, c'est que les DRAC aujourd'hui, déjà avec les fusions des régions, sont dans une tension énorme. C'est que les DRAC rencontrent des difficultés considérables. Ce sont des interlocuteurs indispensables pour les
Benoît Latarget, ouais. Benoît Lambert, pardon. Je vous coupe pour laisser... On va revenir sur la question des DRAC, mais je vous coupe
pour faire réagir Fabien Janel
et Bernard Latarget qui voulaient justement vous répondre.
Nous avons interpellé effectivement le président et le premier ministre, et ça n'est pas la première fois, parce que nous sommes convaincus, artistes et professionnels, qu'il n'y a pas de politique culturelle ambitieuse dans la Ve République sans une volonté présidentielle affirmée. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu de grand discours sur l'art de la part d'un président qu'on nous présente quand même pour le président le plus cultivé qu'on ait eu en gros depuis le général de Gaulle.
Alors Fabien Janel d'abord et puis Bernard Latarget.
Entre Macron et général de Gaulle, il y a eu François Mitterrand quand même comme président éminemment cultivé. Mais enfin, ça c'est une blague. Non, mais ce que je trouve par exemple regrettable dans cette tribune, c'est que ça a été évoqué tout à l'heure, la question du privé. La question du privé est une question tout à fait essentielle, et c'est vrai qu'il y a une tentative, en tout cas, de menace à certains points du service public en le comparant abusivement avec le secteur privé. Nous, on, c'est un secret pour personne que le président de la République et sa femme sont très amis avec Jean-Marc Dumontet. Ces questions-là sont tout à fait essentielles. Elles me paraissent, moi, personnellement, plus dangereuses qu'une éventuelle disparition des DRAC.
Tout le monde ne connaît pas Jean-Marc Dumontet, Fabien Janel.
C'est un patron de théâtre privé parisien qui a, je crois, 2, 3, 4 théâtres dans Paris et qui s'est vanté, ça n'a pas été démenti par le président de la République, d'avoir été un peu son éminence grise sur les questions culturelles durant la campagne, voilà, présidentielle. Bon, enfin, ceci pour dire qu'il y a en effet, entre notre président de la République, celui que nous avons actuellement, et le secteur du privé, secteur privé de la culture, et particulièrement dans le domaine du spectacle vivant, une proximité. Cette proximité est tout à fait dangereuse, pour moi qui suis un défenseur absolu du service public. Cette question-là me semble tout à fait essentielle, je regrette qu'elle ne soit pas abordée. Là, on parle de la disparition des DRAC. Oui, bon, moi, je n'ai jamais vu, jamais réellement entendu parler de ça. Que il y a eu un véritable problème à un moment donné dans la courroie de transmission entre l'administration centrale et les DRAC, qu'on ait assisté à un affaiblissement depuis de longues années, de très très longues années des DRAC, et que la ministre se trouve aujourd'hui en charge d'un secteur ramifié du ministère de la Culture extrêmement affaibli, parce que ce qui est dit de la Bretagne dans la tribune ne relève pas du tout d'Emmanuel Macron. C'est une chose qui remonte au temps de François Hollande. Ça s'appelait le pacte d'avenir pour la Bretagne, dans lequel il était écrit très clairement qu'il y aurait le transfert de compétences de la DRAC Bretagne vers la région Bretagne avec la création d'un guichet unique. Ça c'est une chose qui a au moins 4 ans. Et je n'ai pas vu, quand cette chose-là est sortie à l'époque, des déclarations alarmistes comme je les vois aujourd'hui.
Vous voulez dire, Fabien Janel, que les signataires de la tribune se trompent d'ennemis quelque part ?
Non, ils ne se trompent pas d'ennemis. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est quelle goutte d'eau a fait déborder ce vase. Voilà. Moi, j'ai quand même quelques heures de vol au compteur, si vous voulez. Je m'étonne toujours. C'est-à-dire, quand je vois une déclaration aussi brutale, frontale que celle-ci, je me dis, qu'est-ce qui a pu la motiver ? Alors, je me dis, est-ce que c'est parce que on sait tous qu'il y a eu du tirage entre l'Élysée et la rue de Valois sur la nomination de la personne qui doit prendre en charge la direction de la générale de la création artistique. Est-ce que là, actuellement, on a un effet de ça ? Je n'arrive pas à comprendre, si vous voulez, très sincèrement. Je trouve qu'il y a des combats qui ont été menés par les organisations syndicales, par le SADEAC et sa présidente et son conseil, qui ont été des combats tout à fait essentiels, mais ouverts de discussions avec une personne qui s'appelle Françoise Nyssen, qui est ministre de la culture de notre pays, et je ne vois pas d'un seul coup ce qui justifie cette interpellation en plein été du Premier ministre.
C'est la question qu'on posait en ouverture Fabien Janel, c'est la question qu'on posait en ouverture de l'émission, mais je vais quand même du coup la reposer à Joris Mathieu. Quelle est cette fameuse goutte d'eau, visiblement vous n'avez pas réussi à convaincre Fabien Janel, quelle est cette goutte d'eau qui a déclenché l'apparition de cette tribune rapidement, puis après on va développer un peu sur les points.
Cette tribune, elle n'est pas sortie comme ça de la cuisse de Jupiter, hein, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. C'est quelque chose qui est né de discussions qui datent maintenant de plusieurs mois, qui ont fait qui ont permis l'élaboration de plusieurs versions de tribunes, toujours retardées, toujours, je dirais, réservées, en attendant de voir s'il y allait avoir, en fait, finalement, quelque chose d'important qui allait se passer. Puis il y a eu ce travail mené tous ces derniers mois auprès du cabinet, avec les conseillères de Françoise Nyssen, sur la perspective d'une conférence interministérielle, cette tribune publiée par la ministre dans le journal Libération, et je crois que C'est aussi un phénomène à regarder de près. Une ministre qui publie une tribune dans un journal de grande audience, appelant les autres ministres à se préoccuper de la question culturelle. C'est pas anecdotique et je pense que ça méritait, en tout cas de notre part aussi, une réaction forte. Surtout que on est peut-être l'été, mais après l'été vient la rentrée et cette rentrée, les choses vont aller très vite. Il y a beaucoup de dossiers très importants et il est maintenant important. Peut-être que c'est frontal, peut-être que ça peut paraître brutal et que certains s'interrogent sur les motifs de cette tribune. Quoi qu'il en soit, l'enjeu, c'est que à partir de maintenant, cette question de la place du ministère de la Culture soit posée correctement, qu'elle soit revendiquée avec fermeté et dans un discours d'intention fort présidentiel et du Premier ministre également dans la politique gouvernementale, et que des choses se produisent en dehors de la réflexion sur la réforme des administrations du ministère. Et je voulais juste, je suis désolé, mais parce que Fabien Janel parlait de la région Bretagne, et c'est tout à fait vrai, c'est pas quelque chose qui est apparu là récemment, c'est le produit d'une histoire
et
du précédent quinquennat. Ce qui est nouveau, et Emmanuel Macron a prononcé un discours à Quimper assez intéressant à ce sujet, c'est que il veut rentrer dans la décentralisation nouvelle génération. S'appuyer sur l'expérimentation pilote menée en Bretagne et ce n'est pas que là pour le coup une question culturelle, c'est une question plus large, repenser à travers des réformes et même envisager au niveau de la Constitution des réformes avec un fameux article 72 qui permettrait la différenciation territoriale, c'est-à-dire que selon les régions, sur proposition d'ailleurs des préfets ou d'élus territoriaux, que des transferts de compétences puissent être délégués à certaines régions. Et ça, c'est certaines régions ou certaines métropoles, par exemple. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une exception territoriale. On est sur quelque chose de beaucoup plus élargi.
Vous abordez un nouveau point. Je voulais quand même faire réagir Bernard Latarget qui attend depuis un petit moment.
Non. D'abord, je voudrais donner acte à Benoît Lambert de sa critique sur la présentation du plan culture près de chez vous. Cette communication était maladroite. Elle a laissé entendre en effet que ce plan reposait essentiellement sur les grands établissements nationaux parisiens et leurs sorties, les sorties.
Oui,
les sorties
c'est ce
de
qu'on
a
beaucoup reproché. L'idée que c'est les grands musées qui allaient faire descendre les œuvres en région.
Non, je veux témoigner ici de la résolution de la ministre de fonder cette politique sur les acteurs locaux, sur une approche des territoires par les responsables locaux de ces territoires, sur la mobilisation de ces acteurs locaux et sur l'élaboration par ces acteurs de projets de territoire. Bon, bien sûr, il sera très utile que certains établissements nationaux fassent un effort de décentralisation. D'ailleurs, certains le font déjà et tant mieux s'ils peuvent le développer. Mais la logique de ce projet, c'est vraiment une logique en sens inverse, qui part des territoires et de leurs acteurs. Ça, c'est la première observation. La deuxième, sur l'affaiblissement des DRAC, je voudrais simplement dire que dans le contexte de négociations budgétaires très contraints actuelles, les moyens financiers qui sont déconcentrés dans les DRAC en 2019 augmentent de 6%. Alors, vous me direz, c'est pas énorme 6%, mais c'est pas un affaiblissement, c'est un renforcement de leur capacité d'intervention. Et renforcement de leur capacité d'intervention, j'insiste, dans une situation qui, globalement, est très difficile budgétairement. Bon. Donc, je ne vois pas aujourd'hui de signe de l'affaiblissement des DRAC. Un dernier mot sur les DRAC. La ministre a quand même engagé sur, justement, l'avenir des DRAC, trois inspections générales de l'administration, des finances et de l'action culturelle. Ces trois inspections concluent à la nécessité, au contraire, de conforter les DRAC. Et les dispositions qui ont été prises en application de ces trois rapports d'inspection par la ministre, notamment en termes de moyens de fonctionnement, en termes d'emploi, en termes d'indemnité, vont dans le sens contraire de celui d'un affaiblissement.
France Culture, du grain à moudre d'été, Mélanie Chalandon.
qui veut la peau du ministère de la Culture. C'est le débat que nous avons ce soir jusqu'à 19h. Nos invités sont Joris Mathieu, co-signataire de la fameuse tribune, directeur du Centre Dramatique National de Lyon, Bernard Latarget, chargé de la mise en place du plan culture près de chez vous, Fabien Janel, fondateur et directeur de la scène nationale de la ferme du Buisson, et Benoît Lambert, metteur en scène et directeur du Centre Dramatique National de Dijon. Je voudrais revenir sur un point qui était attaqué, soulevé dans la fameuse tribune publiée dans Le Monde hier. C'est la question du pass culture. Le pass culture qui est un des points forts de la politique culturelle que veut mettre en place le président Macron. Donc c'est un crédit de 500 euros pour le résumé qui sera disponible sur une application pour les jeunes de plus de 18 ans et une expérimentation est d'ailleurs en cours dans plusieurs départements. Dans la tribune, il est écrit « Ce pass revient à subventionner la consommation individuelle plutôt que de réinvestir le bien public ». Benoît Lambert, vous qui dirigez un théâtre à Dijon, pourquoi est-ce que vous ne voyez pas le pass culture comme une opportunité par exemple pour les jeunes gens d'aller plus souvent au théâtre ?
C'est très important cette affaire du pass culture, parce qu'effectivement c'est la seule annonce concrète, forte, qu'a fait le président de la République pendant sa campagne en matière culturelle. Alors c'est compliqué d'en parler, parce que pour l'instant on ne sait pas, on sait peu de choses, il va y avoir des expérimentations, on ne sait pas exactement ce qu'il y aura au niveau des contenus, enfin peut-être que les autres personnes autour de la table sont plus informées que moi sur cette question. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Là aussi c'est une question idéologique au fond. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette idéologie implicite ? C'est que au fond il faut faire confiance, pourquoi pas, enfin moi je suis très pour qu'on fasse confiance aux gens d'une manière générale, mais pour orienter leurs propres choix, aller vers ce qui leur plaît en gros quoi, voilà. Je pense que l'histoire du ministère de la Culture c'est tout l'inverse, c'est-à-dire c'est le contraire d'un algorithme de recommandation. C'est le contraire d'une chose qui vous emmène soit vers ce que vous connaissez déjà. C'est tout un travail pour justement amener vers l'art et la culture des gens qui, sans ça, n'iraient jamais. C'est ça notre mission principale. C'est de faire le constat qu'il y a des tas de freins à la rencontre de l'art, qui sont principalement économiques et sociaux, et que toute l'opération, tout le travail du ministère, tout l'esprit même de ce que va être le plan culture près de chez vous, tel que Bernard Latarget l'a rappelé, c'est précisément de permettre la rencontre entre les œuvres et des gens qui, sinon spontanément, naturellement, n'aurait aucune raison de les rencontrer, pour des raisons, encore une fois, d'exclusion sociale et économique. Je ne vois pas du tout comment cet outil du pass répond à cette question-là, à cette question centrale du ministère de la Culture, qui est celle de la démocratisation. D'autant plus qu'on sait pertinemment que les opérateurs privés, les industriels de la culture sont très intéressés par l'affaire et qu'ils n'ont absolument pas envie d'être exclus. Alors l'argument qu'on nous donne, c'est on ne va pas quand même enlever Star Wars, il faut quand même qu'il y ait dans le pass des choses qui plaisent aux jeunes. Mais là, je ne comprends pas en quoi ça relève d'une politique publique. Je veux dire, en quoi est-ce qu'une application qui va servir à accéder à des billetteries en ligne, que ce soit celle de nos théâtres ou celle d'autres opérateurs, est un grand progrès en matière de démocratisation et d'accès à l'art pour, en gros, émanciper les consciences, quoi. Je l'avoue que là, mais peut-être on va nous expliquer. Si ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une inégalité dans l'accès au contenu numérique, dans ce cas-là, c'est une question de politique de justice sociale. C'est-à-dire qu'il faut permettre aux enfants qui ne sont pas issus de la bourgeoisie d'avoir accès à des contenus numériques dont ils sont exclus parce que leurs parents ne peuvent pas leur payer des abonnements pour y accéder. Bon, ça, c'est peut-être une vraie question, mais elle ne relève pas simplement du domaine culturel. Si, en revanche, la question, c'est de démocratiser l'art, je ne comprends pas exactement en quoi cet outil-là, effectivement, de subventionnement de la non-individuelle, est un outil pertinent.
On va laisser les autres répondre, pardon, Benoît Lambert. Pardon, je suis désolée, je suis obligée de vous couper un petit peu. Donc, l'objectif, effectivement, de ce pass culture, quelque part, c'est de laisser le jeune autonome dans ses choix. Fabien Janel, est-ce qu'il faudrait davantage orienter le choix des jeunes consommateurs et davantage porter donc, ce qui est peut-être la mission originelle du ministère de la Culture, c'est-à-dire démocratiser, rendre accès et puis orienter un petit peu les choix culturels, Fabien Janel?
Écoutez, je voudrais dire simplement, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Benoît.
Sur ce point, vous êtes d'accord.
Je crois que, d'ailleurs, il y a déjà un bilan qui a été fait en Italie sur un principe à peu près semblable. Et les résultats ne sont pas à l'avantage du spectacle vivant. La librairie, on a beaucoup bénéficié, l'édition, mais comme les livres scolaires étaient assimilés, donc on a beaucoup de mal à à savoir ce qui s'est passé, et d'autre part, les jeux vidéo, tout ce qui est de ce domaine. Donc, moi, je suis très, très dubitatif sur l'efficacité d'un dispositif comme celui-ci. Où je suis, en plus, je suis totalement d'accord avec Benoît, je ne sais pas si ça relève vraiment des missions du ministère de la Culture. Ça, c'est une chose. Mais bah, ce que je constate, entre là, c'est là peut-être aussi qu'on voit le rôle d'une ministre de la Culture, c'est que, me semble-t-il, la ministre de la Culture est très prudente sur le sujet. On passe par des étapes d'expérimentation, on nomme des personnes pour affiner le processus. Je finis par me demander, moi, si la ministre est totalement convaincue de l'intérêt du pass culture par rapport au président de la République. Voilà.
Joris Mathieu.
Je partage tout à fait ce que vient de dire Benoît, et en même temps, je permet de penser que la ministre a, à mon avis, d'autres chats à fouetter que cette question-là.
Joris Mathieu.
Oui, alors, en tout cas, c'est sûr que c'est un chantier sur lequel la ministre s'engage beaucoup pour concevoir une réflexion autour de ce pass culture qui soit autre chose, et elle n'a eu de cesse de le réaffirmer dans la presse, qu'un chèque en blanc offert à des jeunes consommateurs. Donc elle travaille à essayer de transformer une promesse de campagne en un projet peut-être un peu plus soutenu et un peu plus rempli, et je rejoins Fabien dans sa remarque. Cela dit, il y a quand même deux questions en une avec la question du pass culture, c'est-à-dire qu'il y a la question de l'application et de l'algorithme dans un monde numérique. Moi, j'ai aucune hostilité à ce qu'on réfléchisse à des outils qui pourraient faire apparaître des préconisations d'activités culturelles, de pratiques culturelles, de découvertes de créations à proximité d'un territoire géographique où on réside et dont on n'a pas la connaissance. Je dirais que ça, c'est un objet préconisateur. Que cet objet soit associé à un crédit, nous permettant d'acquérir des produits, et j'emploie ce terme délibérément, parce qu'il y a une question sémantique quand même. On vient de nommer un responsable pour ce projet, la deuxième phase du projet Pass Culture, et son titre c'est responsable produit. Il faut faire attention aussi au vocabulaire et aux mots, et je pense que derrière on peut bien dire tout ce qu'on veut, on peut argumenter dans tous les sens. Il y a bien une logique produit derrière cela. Et si l'on considère, et si la pensée c'est une pensée magique avec la question du numérique, que le numérique va permettre de réveiller la curiosité de spectateurs qui ne l'auraient pas eu jusque-là simplement par le biais d'une application, c'est présupposé que cette application arrivera à concurrencer la surface médiatique de grands groupes industriels bien plus puissants que cette application. Donc je n'y crois pas une seconde. Il se pose aussi une question du financement de la mise en place de ce pass culture, elle est fondamentale, parce qu'on parle de 400 millions d'euros. À une époque où, comme Bernard Latergel l'a rappelé tout à l'heure, le contexte budgétaire est extrêmement tendu. Et s'il était quelque chose de l'ordre de la compétence du ministère de la Culture, et je suis bien d'accord avec Fabien Janel que peut-être ce n'était pas un sujet central à porter par le ministère de la Culture, ça aurait été de voir comment débloquer des crédits pour que ce travail de proximité qui est fait au quotidien par les compagnies indépendantes sur les territoires, les fameux déserts culturels dont on parlait tout à l'heure, les artistes présents dans ces lieux-là, les lieux ressources, puissent continuer à développer ce qu'ils font encore et toujours, c'est-à-dire le travail de la mise en curiosité des publics pour la découverte des œuvres.
Il nous reste 10 petites minutes. Au-delà de ce point spécifique du pass culture, on arrive peut-être aussi au cœur des missions du ministère de la Culture, Bernard Latarget, sur cette question du privé et de à quel point l'État doit se concentrer uniquement sur le secteur non marchand, ou bien se lancer aussi dans des projets comme le pass culture, dans lesquels le secteur privé est aussi impliqué. Bernard Latergène.
Le 12 juillet dernier, la ministre en Avignon a conclu une rencontre qui était organisée à l'initiative de la Fondation du Crédit Coopératif et du Labo de l'ESS sur ce qu'on appelle généralement le tiers secteur, c'est-à-dire toutes ces entreprises artistiques politiques et culturelles qui ne sont ni le service public, c'est-à-dire majoritairement subventionné par les pouvoirs publics, ni des entreprises commerciales concurrentielles. Ce secteur aujourd'hui, c'est plus de 35 000 entreprises majoritairement associatives qui représentent donc à la fois en termes d'offres artistiques et culturelles, de publics concernés, de territoires couverts, un secteur majeur de l'activité artistique culturelle française. Or aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ce tiers secteur était un peu la variable d'ajustement des décisions de politique culturelle publique, la variable d'ajustement des budgets.
Quand vous parlez du tiers secteur, pardon, vous pouvez nous donner un exemple de quelles institutions ou quelles associations ça...
La plupart des compagnies artistiques dans toutes les disciplines sont des associations. Toutes les associations d'action culturelle, les établissements qu'on appelle les lieux intermédiaires, bon, qu'ils soient en structure coopérative ou qu'ils soient en structure associative, ce sont la majorité de nos entreprises culturelles aujourd'hui. Bon, elles ne sont pas le secteur privé pur, elles ne sont pas le service public pur. La volonté de la ministre, là, c'était justement d'en reconnaître l'importance, de reconnaître le rôle qu'elle devait jouer, justement, comme troisième voie entre ce service public et ce secteur privé. Éviter, justement, le risque de dérive vers une privatisation excessive des activités artistiques et culturelles du fait d'une réduction éventuelle des fonds publics. Donc, je crois qu'il y a là une orientation très très nécessaire et très très prometteuse, une meilleure prise en compte par les DRAC, par l'État et bien sûr par leurs partenaires des collectivités territoriales, de la place et du rôle dans les territoires de ces entreprises.
Par exemple, je reviens sur une question des exemples. Un lieu comme le lieu unique à Nantes, par exemple, peut faire partie de ces lieux dont vous parlez.
Oui, je sais pas. Vous posez une colle. Je sais pas quel est le statut du lieu.
C'est une scène nationale.
Donc hors sujet.
Non, pardon.
Les entreprises.
C'est un très bon exemple.
Les entreprises dont je parle sont celles qui ne sont pas, disons, dont l'économie n'est pas couverte à plus de 50% par des subventions publiques et dont les directeurs ou directrices ne sont pas nommés par des autorités publiques.
Benoît Lambert.
Non, c'est la question effectivement du lien avec le secteur de l'économie sociale et solidaire, il est central. On peut espérer que ce sera effectivement un chemin d'avenir. Après, il faut faire très attention. C'est-à-dire que si on compte dans ces entreprises toutes les compagnies théâtrales, moi, avant de diriger un centre dramatique, j'ai dirigé pendant 20 ans une compagnie théâtrale. De fait, elle était subventionnée simplement à hauteur de 20% de son activité, mais il ne faut pas se tromper. Le reste de son activité, c'était un travail collaboratif avec des structures subventionnées. Donc, en réalité, beaucoup de ces lieux sont sous dépendance très forte du réseau de la culture publique, bien évidemment. Donc, travailler, réfléchir à ces solidarités, pourquoi pas, mais je ne crois pas que ce soit là le schéma de la troisième voie ou du « en même temps » ou d'un endroit de mariage entre public et privé. Mais encore une fois, là, dans la discussion qu'on a, on est relativement d'accord. On a une ministre de bonne volonté qui avait plutôt des bonnes idées. Nous, on émet simplement un doute fort, il faut quand même l'entendre collectivement. On a l'impression qu'elle est assez peu soutenue. On avait déjà eu l'exemple sur la question des migrants. Enfin, je veux dire, elle était seule au sein du gouvernement à appeler les acteurs culturels, presque à s'opposer à ce que la politique du gouvernement était en train de mettre en place. Donc elle est quand même dans une situation très, très particulière. On essaye comme on peut de l'accompagner et de l'aider. On est plutôt d'accord avec elle sur un certain nombre de points. Sur le pass culture, moi je suis entièrement d'accord avec Fabien. On sent bien que le ministère n'est pas très chaud pour cette nouvelle innovation. Mais c'est de ça dont on parle fondamentalement. On sent bien que le ministère aujourd'hui est de plus en plus contraint à faire des choses qui ne relèvent pas tellement de ses convictions de fond ou de ce qu'il a essayé de mettre en place au cours de son histoire. Donc le ministère lui-même aujourd'hui est dans une position de résistance face au gouvernement dans beaucoup de domaines. C'est de ça dont il est question. Alors ensuite, l'opportunité de sortir une tribune à tel ou tel moment, c'est une question qu'on peut se poser, c'est sans doute une question stratégique, mais arrêtons de nous mentir. On sait bien qu'il y a quand même une hostilité de fond, qui n'est pas celle de la ministre, ni même du ministère bien entendu, mais à l'endroit de ces outils de la politique publique, et qui est liée à une chose dont on a très peu parlé aujourd'hui, mais qui me semble centrale, qui est quand même une sorte de biais parisien, pardon de le dire comme ça, c'est-à-dire une méconnaissance de fond par Paris, comme ça je désigne personne de plus précisément que ça, de la réalité du travail, de la décentralisation culturelle depuis 70 ans, de ce qui se passe réellement. Le plan culture près de chez vous, c'est une très bonne idée, mais fondamentalement, il y a déjà des tas de structures qui sont à l'œuvre sur ces questions-là depuis très longtemps. Donc continuer, oui, mais c'est pas la question aujourd'hui qui se pose. La question, c'est de tout changer, et on a peur parfois que ce soit pour le pire.
Je suis désolée, on arrive vraiment à la fin de cette émission. Joris, Mathieu, je vous accorde trois mots.
Voilà, c'est très important que quand on parle de troisième voie possible, peut-être qu'à un moment donné, il faut savoir regarder que ce qui est à l'œuvre aujourd'hui dans les lieux que nous défendons incarne cette troisième voie, la mutation des usages, et qu'il faut accompagner cette mutation.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir accepté ce débat. Joris, Mathieu, Bernard Latarget, Fabien Janel, Benoît Lambert, merci infiniment. Merci beaucoup aussi au studio de France Bleu à La Rochelle de vous avoir accueillis et d'avoir assuré le duplex. La réécoute de cette émission et de toutes les autres, eh bien c'est à la page du Grain à Moudre d'été sur franceculture.fr. Émission préparée d'une main de maître par Laila Saïdi, Copelia Ménardi, Marine Lerouge, Isulte Sicard et Imène Mélaz. Réalisation Alexandra Longuet, prise de son Pierrick Monsigny, et merci aussi à Julien Hézard à La Rochelle.